France Inter.
Je suis Nicole, j'appelle de Reims et je suis passionnée par ces histoires de mégalithes. Et je suis étonnée qu'on ne parle pas de Newgrange, qui est en Irlande, qui a été découvert il y a peu de temps. Et en fait, Stonehenge est en ruine et Newgrange, c'est tout neuf. C'est flambant neuf. Et je m'étonne qu'on n'en parle pas, personne. Voilà.
Denis, de quelque part sur Terre, j'aimerais assez attirer votre attention sur l'hypocrisie française. Des mines de lithium dans l'Allier, des puits de pétrole en Île-de-France et dans les Landes, des sites sévèrement encadrés par les normes françaises, et pourtant les riverains sont vent debout. Vous préférez exporter tout ça, et aussi nos industries chimiques, dans les pays émergents, sans normes, sans contrôle de potabilité aquatique. Et après, ce sont les mêmes bobos qui viendront nous jurer que c'est les industries chinoises qui polluent.
Bonjour, la Terre au carré, Annette. De la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Un projet de parking de 200 places sur une dune fragile dans une zone humide classée Natura 2000 est envisagé par la municipalité de Crozon. À l'heure où est mise en avant la protection de la biodiversité, comment un projet aussi désastreux est-il possible ? Face à cette solution qui vise à faire le moins de pas possible pour accéder aux plages, mobilisons-nous pour préserver cette belle nature vivante. Rejoignez-nous. Merci.
Allô, ici Thibaut à Embrun. J'ai écouté votre émission sur le tourisme. Moi, je trouve ça super intéressant. Ici, on est dans un département très touristique. Et j'aurais tendance à dire que le touriste est un colon, même dans son propre pays. À savoir que l'arrivée des touristes a rendu ici la vallée extrêmement attractive. Et que du coup, les logements sont inaccessibles pour les habitants locaux. Que ce soit à la location ou à l'achat. C'est un colonialisme et une gentrification des montagnes et de tous les espaces touristiques. En tout cas, merci pour vos émissions. À bientôt.
Bonjour, c'est Alain de Longjumeau sur le problème du tourisme. Je pense que sur Terre, il n'y a pas d'étrangers. On est tous terriens. Et j'ai eu ça comme principe dès que j'ai commencé à voyager. J'avais pas de sous, je faisais l'autostop. Et quand j'avais plus d'argent, je travaillais sur place et je me faisais plein d'amis. Depuis, je suis devenu biologiste et quand je fais du travail, par exemple en Ukraine avec mes amis du muséum de Kiev pour aller chercher des cistudes, je vis avec eux, on est ensemble et je finis par être de leur famille. Nous sommes tous terriens et pas des étrangers, pas des touristes.
Salut la Terre au carré, ici Iris de Bouzel dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. Vous avez envie de protéger la ressource en eau ? Avec les copines et copains de Bassine Non Merci 63, on vous donne rendez-vous ce samedi 11 mai à 9h30 à côté de Billon, à l'est de Clermont-Ferrand, pour dire non au projet des deux plus grands méga-bassines de France. Habillez-vous tout en bleu et rejoignez-nous dans une randonnée festive, joyeuse, colorée et déterminée pour la défense de l'eau. On compte sur vous, car l'eau ne se confisque pas. À samedi!
Et j'attendais le désormais célèbre No Bassaran à la fin de votre message, Iris. En tout cas, merci pour vos appels sur le numéro du répondeur, le 01 56 40 45 45. Depuis des millénaires, pour être cultivées, les plantes ont été façonnées par des processus de domestication. À partir du néolithique, nos ancêtres agriculteurs ont en effet commencé à croiser et sélectionner de nouvelles variétés pour les adapter aux environnements dans lesquels ils vivaient. Et cela n'a pas cessé depuis. La méthode traditionnelle de croisement sélectif est souvent longue et aléatoire. Et aujourd'hui, les agronomes disposent de nouvelles technologies pour aller plus vite, beaucoup plus vite. Souvent comparées à des ciseaux moléculaires, ces technologies permettent de modifier de manière ciblée et précise une région de l'ADN de la plante. L'objectif est d'imiter les mutations naturelles pour offrir par exemple aux plantes une résistance face à des virus. À l'heure du dérèglement climatique, les enjeux pour lutter contre les maladies ou les sécheresses sont énormes dans le monde agricole. Et on va en parler avec vous, François Parcy, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire de physiologie cellulaire et végétale à l'université de Grenoble-Alpes et vous publiez donc ce livre « Les clés du champ, comment domestiquer les plantes » chez Humaine Science, dans lequel vous vantez les mérites de ces nouvelles techniques qui accélèrent le processus de résistance des plantes. On va donc en discuter avec vous dans un instant et avec les messages qui arrivent sur la page de la Terre au carré et nos réseaux sociaux pour parler donc de cette domestication des plantes. À tout de suite. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Les aires marines protégées qui ne protègent en fait pas grand-chose des océans dans le monde. Seul un tiers d'entre elles sont efficaces d'après une étude qui sort ce jeudi.
Les AMP On en parle donc tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardi avec Laurent Baudouin à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
C'est un des ancêtres du blé, qui est donc une graminée toute simple avec un petit épi étroit. Et de cette plante-là, les hommes préhistoriques ont créé plusieurs espèces qui ont conduit aux variétés actuelles, qui sont l'engrain, l'épeautre, le blé tendre qui sert à faire du pain, le blé dur qui sert à faire des pâtes alimentaires, etc. Et à partir de ces espèces-là, il a été créé au cours des siècles de très très nombreuses variétés de chaque sorte.
Serge Bahuchet, en 2015, professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, pour parler de la domestication des plantes, des agriculteurs, donc du néolithique jusqu'au ciseau génétique. François Parcy avec ce livre, donc Les clés du champ, comment domestiquer les plantes chez Humaine Science. Est-ce que dans votre laboratoire de Grenoble, votre travail consiste justement à essayer de domestiquer les plantes ?
Pas vraiment. Nous, on fait plutôt de la recherche fondamentale pour comprendre comment elles poussent et comment elles évoluent. Mais en fait, il y a plein de points communs entre la domestication et l'évolution, la domestication et le développement des plantes, la formation des organes. Et donc, ça m'a conduit à m'intéresser à la domestication un peu comme un hobby, plus que comme un sujet de recherche.
Ouais, et qu'est-ce que vous cherchez alors dans cette compréhension des plantes ?
Nous, on cherche à comprendre comment les fleurs se forment. C'est-à-dire comment on a un petit groupe de cellules indifférenciées qui ressemblent à pas grand-chose. On arrive à voir ces organes, les pétales, les étamines qui se développent. Et une fois qu'on a compris, on se demande, mais comment ça a pu être créé par l'évolution ? Comment petit à petit c'est apparu ? Comment ça s'est diversifié ?
Ouais, et donc, ce sont les plantes à fleurs que nous consommons ? Qui sont cultivés.
Effectivement,
hein, c'est celle qui nous intéresse.
Effectivement, on ne mange quasiment que des plantes à fleurs, à part les pignons de pin, on mange quasiment, ou les algues peut-être, mais ouais. La quasi-totalité de notre nourriture, ce sont les plantes à fleurs. Et c'est elles qui ont toute la richesse aussi, la grande diversité de la flore sur Terre, ce sont des plantes à fleurs.
Ouais. Et c'est compliqué de comprendre tous ces mécanismes d'évolution ?
C'est compliqué.
Il y a encore
hein.
plein de points d'interrogation dans vos recherches.
Il y a beaucoup
recherches.
De points d'interrogation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comprendre l'évolution, quand on cherche à comprendre des événements qui se sont produits il y a plusieurs millions d'années, on a du mal. On infère, on se doute, mais on ne peut pas démontrer proprement. Et ce qui est fascinant avec la domestication, c'est que c'est sur un temps assez court. Et donc, on peut démontrer des choses. Des ancêtres sont encore là. Donc, on peut comprendre l'évolution entre nos mains, entre les mains des populations humaines.
Les premières plantes à fleurs, c'est quand d'ailleurs dans l'histoire de la vie ?
Vaste question. Hein, ouais. On estime que c'est au moins il y a 130 millions d'années, mais l'incertitude est énorme. Certaines personnes pensent que ça pourrait être 250 millions d'années.
Oui.
Ça pourrait être le Jurassique plutôt que le Crétacé.
Ah oui, donc il y a une grosse marge.
Donc il y a
même,
une très très grosse marge.
Et à partir de quand alors nos ancêtres ont commencé véritablement à transformer les espèces végétales à des fins de consommation ?
Ça dépend beaucoup des espèces, mais on estime que les débuts de l'agriculture, hein, c'est à peu près 10 000 ans.
Donc c'est vraiment le néolithique.
C'est le néolithique. C'est quelque chose de très récent à l'échelle de l'évolution des plantes, bien sûr, puisque les premières plantes à fleurs, je viens de le dire, 150 millions d'années. Mais par contre, il s'est passé des tas de choses pendant ces 10 000 ans. Et on a vu des énormes changements. Des changements qui, s'ils s'étaient produits dans la nature, auraient été beaucoup plus lents, en fait. Hein, s'il y a une accélération sous la main humaine.
Alors, c'est quoi les premières plantes à être domestiquées ? On le sait ou pas ? On peut le savoir ?
Disons, on sait que parmi les premières, il y a les céréales. L'orge, le blé, ça c'est des choses qui ont été domestiquées très tôt dans le croissant fertile,
ouais.
Et le riz aussi en Asie. Et ensuite, elles ont voyagé de par le monde et elles ont changé de lieu de culture.
Et les méthodes alors utilisées, c'est quoi finalement ? Quand on veut mettre la main humaine dans cette évolution, dans cette sélection ?
Les méthodes au départ, c'est de regarder ce qui existe dans la nature, de le cueillir et de le manger, sans spécialement appliquer une pression de sélection.
Ouais.
Et puis,
avec tous les risques que ça peut comporter, j'imagine. Hein.
Avec tous les risques,
ouais.
Peut-être on en reparlera, mais en fait, les organismes vivants naturels, souvent, ils sont protégés des prédateurs. Et donc souvent, leurs graines, elles sont soit très amères, soit toxiques, soit même mortelles. Donc
ouais.
Bien sûr, ça représente des risques. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que nos ancêtres, hein, les gens du néolithique, en fait, ils devaient ramener autour de camps temporaires les fruits qui leur paraissaient les plus gros, les amandes les moins toxiques. S'ils revenaient sur ces camps 15-20 ans après, comme il y avait une composante génétique à la non-toxicité ou à la taille du fruit, eh bien autour de ces camps temporaires, ils retrouvaient des plantes qui étaient un peu mieux que celles de la nature.
Ouais.
Et donc, c'était déjà une pression de sélection.
Donc, ils pouvaient agir directement, par exemple en faisant des sélections de semences particulières, et puis indirectement aussi, peut-être, en changeant d'environnement, en changeant certaines plantes d'environnement.
Au départ, effectivement, c'était complètement involontaire, en fait. Hein. S'il n'y avait pas d'idée, il nous faudrait des plantes cultivées, ça n'existait
oui.
pas, tout ça. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte qu'on pouvait aussi croiser les plantes, et que quand ils mettaient ensemble des plantes venues de deux endroits différents, elles pouvaient se croiser, et en se croisant naturellement, c'était pas vraiment naturel, puisqu'ils les avaient mises ensemble, hein. Ouais. Mais en se croisant, elles généraient comme ça des nouvelles plantes qui avaient des caractéristiques différentes. Et eux, à chaque fois, ils piochaient dans cette diversité pour prendre ce qui les arrangeait. Et il faut bien dire, c'est ce qui les arrange, ça veut dire qu'ils sont favorables à la consommation humaine, mais aussi à la culture. Hein. Parce que la domestication, c'est pas seulement des traits qui sont importants pour les manger, ouais. C'est aussi des traits qui sont importants pour les cultiver, comme par exemple une précocité de germination, une homogénéité de germination, des choses comme ça.
Donc il y a eu beaucoup de tests, évidemment, d'expériences. Peut-être certains sont morts, d'ailleurs, pour avoir tenté de manger certaines choses. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que les premiers mangeurs d'amandes y ont laissé leur peau ou pas?
Mais c'est une question qu'on me pose souvent, parce qu'on se dit, mais pourquoi les hommes ont essayé de domestiquer une amande qui est mortelle?
Ouais.
Alors, bon, j'étais pas là.
Toxique et immangeable, en fait.
Qui est toxique et immangeable.
Ouais.
Et donc, bien sûr, j'étais pas là pour le voir. On peut faire des hypothèses.
Ouais.
Une amande toute seule ne vous tue pas. Et elle vous apporte quand même quelque chose. Donc on peut imaginer que nos ancêtres, peut-être, y mangeaient une très faible quantité de noyaux d'amande,
oui.
Et qu'ils se sont rendus compte un beau jour qu'il y avait des mutants, hein, des variants, qui en fait étaient moins amers, qui étaient plus doux. Et
ils se sont dit, tiens, on pourrait faire de la frangipane quasiment.
Rien d'involontaire, rien d'intentionnel. Comme l'évolution, en fait. Hein.
Ouais.
Ça avance. Et ce qui est mieux, au sens de la, voilà, de la consommation humaine, ça reste. Et ce qui est moins bien, ou ce qui est toxique, ça disparaît.
Ouais. Alors comment ils ont procédé, par exemple, avec l'amande de... Expliquez-nous un petit peu le processus, parce que c'est intéressant. Vous dites que c'est très toxique au départ, hein, et puis finalement on a réussi à faire de l'amande douce, quoi.
Ah oui. Au départ, l'amande, alors dans les noyaux de l'amandier, mais c'est vrai aussi pour l'abricot, pour la prune, la pêche, etc., il y a un composé qui s'appelle l'amygdaline. L'amygdaline, quand vous la digérez, elle libère du cyanure. Donc, une grosse poignée d'amande vous tue.
Ouais.
C'est vraiment très toxique. Et en fait, alors ce qui a été découvert récemment par un groupe de chercheurs à la fois de l'Espagne et du Danemark, c'est qu'en fait, dans cette voie de biosynthèse, donc la voie de biosynthèse, c'est comment on fabrique l'amygdaline, comment l'amande, elle va fabriquer ce composé toxique. On part d'un petit composé qui a un acide aminé qui a rien de toxique du tout. Et en 4 réactions chimiques, on le transforme en amygdaline. Et bien, ce qui a été découvert récemment, c'est que, non pas sur les enzymes elles-mêmes, mais sur d'autres gènes qui vont réguler la teneur en enzymes, il y a eu une différence qui fait que les enzymes 1 et 2, elles ont un niveau beaucoup plus bas, et donc l'amygdaline, elle est produite à un niveau beaucoup plus faible. Et ça se passe pas dans l'amande elle-même, ça se passe dans la peau de l'amande, ce qu'on appelle le tégument.
Ouais. En fait. Et donc ils ont fait de la génétique sans le savoir, en réalité.
Ils ne savaient rien, c'est de la génétique, les yeux bandés. Nos ancêtres, ils ont trouvé ces amandes qui étaient plus douces, ils les ont conservées, et il a fallu attendre 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, pour que des chercheurs aujourd'hui
c'est
révèlent
la mutation,
différence.
En fait. Et la mutation, parce que c'est vraiment une mutation qui est à la base de cet aspect consommable, au fond, de l'amande.
Exactement. En fait, tout ce qui est domestication, il y a une composante génétique, c'est-à-dire ce sont des variations ou des mutations qui font que c'est héritable. Évidemment, si elle était douce un jour et puis que dans sa descendance elle soit plus douce, ça n'intéresserait personne. Donc il y a une héritabilité qui est inscrite dans le génome et c'est ça qui a été sélectionné par les humains.
François Parcy, le gratin dauphinois, lui aussi doit beaucoup à la domestication.
Ah, le gratin dauphinois. Vous savez que les pommes de terre, alors elles viennent d'où? Elles viennent d'Amérique, hein, elles viennent du continent Amérique du Sud, de Bolivie, d'Équateur, du Pérou. Ces pommes de terre, elles renfermaient des glycoalcaloïdes qui s'appellent la chaconine, la saponine, qui sont extrêmement toxiques.
C'est immangeable.
D'abord, elles vous attaquent le système digestif, et donc c'est déjà pas très bon. Et si elles passent, elles vous attaquent le cerveau.
Et il y a quand même des types qui se sont dit à l'époque, on va quand même insister, c'est immangeable, mais on va y aller.
C'est quand même devenu un aliment consommé aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, effectivement, il a fallu sélectionner des pommes de terre moins toxiques. Alors, je raconte un peu dans le livre, hein, les humains, ils avaient des stratégies, ils les faisaient geler, dégeler, ils les lavaient, etc. Ils essayaient d'imiter un peu certains animaux qui lèchent de la chaux en même temps qu'elles mangent des pommes de terre. C'était assez compliqué. Mais en fait, petit à petit, ils ont sélectionné des pommes de terre avec un taux de glycoalcaloïdes qui était plus faible.
Bon, on les remercie quand même.
Hein, on les remercie.
Leur entêtement à payer. Les clés du champ, c'est votre ouvrage. On y revient dans un instant. François Parcy, vous êtes notre invité.
Ce soir sur le scout, j'ai abîmé ton cœur. On a pris la route, dans Paris y'a pas d'heure. Et cette fois y'a pas de doute, je vois plus les couleurs. C'était encore un shoot, de trop d'erreurs. Et je conduis bourré, non faut pas le faire. Mais j'ai bien essayé, tu me tiens par derrière. Et je sens ton odeur de parfum et de vodka. Je sais que c'est la peur qui te retient à moi. Oui, j'ai tout caché encore une fois. Dans mon téléphone, t'as fouillé. N'en fallait pas. Et j'ai frappé les murs, j'ai cassé la porte. Je te balance des injures quand la colère m'emporte. Et maintenant, j'ai que mes yeux qui pleurent pour deux quand je m'en veux.
Quand je m'en veux.
WhatsApp sur écoute. J'ai grillé toutes mes chances. T'en as plus rien à foutre. Ça c'est ce que tu me balances. Balance-moi tes plus belles insultes. J'ai pas peur du hardcore. Tu peux me traiter de pute. Moi je peux encaisser encore. Bébé j'accélère. Paris est flou. Pourquoi je fais tout pour te perdre? Pourquoi je sabote tout? Et j'ai le cœur qui se serre. Si tu veux plus rien du tout. Plus rien c'est déjà beaucoup.
Déjà beaucoup.
Oui j'ai tout gâché. Encore une fois. Dans mon téléphone t'as fouillé. N'en fallait pas. Et j'ai frappé les murs. J'ai cassé la porte, je te balance des injures quand la colère m'emporte. Et maintenant j'ai que mes yeux qui pleurent pour te dire quand je m'en veux.
Quand je m'en veux.
J'ai que mes yeux qui pleurent pour deux quand je m'en veux.
Scout, Emma Peters sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Toutes les variétés de choux sont issues d'une même espèce, l'espèce Brassica oleracea. Sauf le chou chinois qui lui est de l'espèce Brassica rapa. Et tout ça pour une variété de taille, forme, texture, couleur assez dingue au sein d'une espèce. Par exemple, le chou paumé provient d'une anomalie de certains choux qui ont de toutes petites tiges, d'où partent les feuilles. Certains cultivateurs ont trouvé ces plantes intéressantes. Ils ont alors choisi celles qui avaient de belles feuilles et les ont plantées, et ainsi de suite, jusqu'à transformer cette plante pour qu'elle devienne la belle boule qu'on connaît aujourd'hui.
Extrait d'une vidéo, le Lab de l'eau, en février 2021. François Parcy, chercheur en physiologie cellulaire et végétale, et les clés du champ, comment domestiquer donc les plantes chez Humaine Science. Et bah, les choux, évidemment, vous en parlez, puisque vous dites qu'ils représentent à eux seuls une belle illustration de la diversité des formes, quand même, hein, dans... et des couleurs aussi, pour obtenir, à partir de la même espèces, tout un tas de choses différentes.
Les choux, on les nomme parfois les chiens de la domestication végétale, donc c'est vraiment un très bel exemple parce qu'on en a fait des choses tellement différentes qu'on ne peut pas imaginer que ça soit issu d'un ancêtre commun qui existe encore aujourd'hui, qui existe en Bretagne ou en Algérie. C'est comme aujourd'hui, quand on voit la diversité des chiens, on a du mal à imaginer que ça vienne. Tous ces chiens-là viennent du loup.
À quoi il ressemble d'ailleurs l'ancêtre commun?
L'ancêtre commun, il ressemble un petit peu à ce que vous avez aujourd'hui quand vous regardez un colza ou une moutarde. Donc c'est une plante de rosette qui fait des feuilles au sol et ensuite une tige fleurie avec quatre pétales qui soient soit jaunes.
C'est pas, la grosse boule du chou-fleur,
par exemple.
C'est
pas du tout la grosse boule, mais ce qui est incroyable chez Brassica oleracea, c'est qu'il n'y a pas que les choux paumés. Il y a les choux-fleurs, il y a les choux romanesco, il y a les choux raves aussi, il y a le chou cal, il y a le chou de Bruxelles, le brocoli. Tout ça, c'est une seule et même espèce. Vous pouvez la croiser, vous pouvez prendre ces deux plantes, vous les croisez et c'est fertile dans la descendance.
Ouais. Avec plein de couleurs différentes, plein de formes différentes.
Avec aussi plein de couleurs. Alors là, les choux-fleurs, on connaît bien les choux-fleurs beiges, mais il y a aussi des choux-fleurs violets, des choux-fleurs oranges. Et là, à chaque fois, c'est des sélections. Le chou-fleur violet, c'est un régulateur qui contrôle toute une cascade de synthèse des pigments violets qui s'appellent les anthocyanes. Eh bien lui, il a été un peu dérégulé, il s'est mis à activer la cascade dans le chou.
Donc tout ça, c'est des mutations en fait.
Tout ça, c'est des mutations. Et aujourd'hui, et depuis 20 ans, les premières mutations, elles ont été isolées il y a 20 ans, on les connaît. C'est-à-dire qu'on commence à dire, voilà, je sais qu'il est violet à cause de tel changement sur son ADN. Je sais qu'il est orange parce qu'il va stocker les pigments orange et donc, au lieu de les éliminer à mesure, il va finir tout orange.
Et vous citez l'exemple de la banane aussi, ça c'est intéressant parce que la banane avait des graines au départ. On a complètement oublié ça, évidemment.
Non seulement elle était bourrée de graines, elle était toute petite, mais sa chair n'était vraiment pas bonne. Et ça, on ne sait pas du tout si c'est un croisement naturel ou si les humains ont un peu aidé, mais à partir de deux bananes qui avaient strictement aucun intérêt, il s'est formé en première génération une banane qui était à la fois sans graines et avec une chair sucrée. Et l'exemple de chair sucrée, c'est général, parce que si vous prenez par exemple la pastèque, c'était un petit fruit bien plus petit, un peu comme une balle de tennis, qui était bourré de graines et qui était extrêmement mauvais, qui causait des inflammations. Il n'y avait pas un gramme de chair rouge, quoi. Ouais.
Et combien de temps ça a pris, par exemple, pour la banane, pour devenir ce fruit que nous consommons aujourd'hui?
Alors, pour la banane, je connais pas les dates exactes, mais en général, c'est plusieurs milliers d'années. Hein. Les exemples de domestication très récents, ils sont assez rares. C'est souvent plusieurs milliers d'années. Ce qui est très court à l'échelle de l'évolution, ouais. Encore une fois, hein, ce qui est très court, quoi.
François Parcy, une question. Quand un fruit, justement, représente un avantage qu'on peut comprendre pour le consommateur, est-ce que c'est aussi un avantage pour la plante ou pas du tout?
C'est une question essentielle que vous posez là. C'est vraiment essentiel. En fait, faire rentrer les plantes dans le champ, c'est les sortir de la nature. Ce qui est un avantage dans le champ, c'est un désavantage dans la nature. Le caniche et le chihuahua sont heureux dans nos salons. Si on les relâche dans les forêts de Sibérie, ils vont pas durer très longtemps. Quand vous prenez des céréales où les graines restent attachées, donc il y a plus de diffusion du tout, elles tombent au sol, elles germent tout en même temps. Elles sont pas protégées des prédateurs. On leur a enlevé leur amertume, leur toxicité. Ce sont des proies faciles pour tous les prédateurs. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu souvent des plantes cultivées sortir des jardins ou des champs? Est-ce que vous avez vu des bois envahis par des aubergines, des pommes de terre? Ça n'existe pas. En fait, les plantes cultivées, elles sont prisonnières de nos champs. Elles ont besoin que nous les choyions. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On doit leur donner de l'eau, de l'engrais, on doit leur enlever les autres plantes.
Donc
qui
elles sont
les
dépendantes
gêner.
Finalement.
Elles sont dépendantes des humains.
Elles ont perdu leur autonomie
au même titre que les animaux
et leur défense naturelle.
Exactement.
Presque.
Et donc en fait, domestiquer, c'est retirer ce caractère naturel pour apporter dans un contexte spécial qui est celui du champ.
Et il n'y a pas de retour en arrière possible?
Il y a toujours des retours en arrière possibles parce que les plantes ancestrales existent toujours. Et donc si on pense qu'on est allé trop loin, on peut revenir en arrière, on peut faire des croisements avec les plantes ancestrales. Et aujourd'hui, et bien sûr c'est un grand sujet, on aimerait bien avoir des plantes cultivées un peu plus robustes, peut-être un peu moins performantes, pour employer les mots de mon collègue et ami Olivier Hamant, hein, mais qui soient plus robustes. Et pour ça, on pourrait peut-être revenir un peu en arrière et repartir en avant de façon...
On va y venir parce qu'on a au fond les technologies pour le faire et c'est aussi une question de débat aujourd'hui dans la société.
Jean nous écrit sur franceinter.fr, la sélection s'est aussi beaucoup faite à partir de l'observation des habitudes alimentaires des animaux. Pour l'amande, on en parlait tout à l'heure, peut-être que nos ancêtres ont constaté que certaines variétés étaient plus appréciées que d'autres par certains animaux. Est-ce que ça pourrait être une piste ça, François Parcy?
Tout à fait. Alors celle-là, moi effectivement, je la cite souvent quand je suis dans des conférences ou des cours de domestication. Je dis peut-être qu'ils ont observé les rongeurs ou les oiseaux. Et ils se sont rendus compte qu'il y en avait plus sur certains arbres que sur d'autres. Dans l'exemple du sorgho, qui est une plante africaine qui commence à arriver en France parce qu'elle résiste très bien à la sécheresse, dans l'exemple du sorgho, ce sont des chercheurs chinois qui avaient des champs expérimentaux avec des rangées de sorgho doux et des rangées de sorgho amer. Ils ont constaté que les oiseaux, ils étaient installés sur les rangées de sorgho doux, ils n'allaient pas sur les rangées amères. Donc l'observation de la vie animale et des consommations animales, c'est certain qu'elle a servi aux humains.
Le maïs, par exemple, ça ressemblait à quoi au départ?
Le maïs, c'est méconnaissable. Vous savez que c'est tellement méconnaissable qu'il y a eu une bagarre entre deux chercheurs américains qui se sont battus vraiment férocement parce qu'il y en a un qui ne pouvait pas croire que l'ancêtre du maïs soit une petite plante mexicaine qui s'appelle la théosinte. Donc c'est une plante qui est très buissonnante, qui a des tas de branches, alors on appelle ça des talles en vérité, et elle a des petites inflorescences, c'est-à-dire des petits épis, et sur ces épis il y a 5, 7, 8, 10 graines qui sont enfermées dans une coquille très solide. Et donc il fallait casser la coquille solide pour aller faire sortir une petite graine. Quand vous voyez un épi de maïs aujourd'hui qui compte des centaines de graines, des graines nues...
Bien organisées,
bien rangées, et qui ne se détachent pas...
Tout ça, c'est la main
humaine.
Avant,
il fallait récolter sous la plante, quoi. Et donc, c'était pas facile à cultiver du tout, ni à récolter, ni à manger.
François Parcy, on a une idée du nombre d'espèces de plantes qui sont domestiquées aujourd'hui ou pas, est-ce qu'on sait?
Je connais pas le chiffre précis, mais je dirais sans doute, peut-être 100 ou 200.
C'est pas
ça
beaucoup,
va pas
hein.
très loin. Alors qu'on considère que les humains sur Terre, au cours de leur histoire... se sont nourris de 3000 espèces différentes. Et donc, en fait, la part qu'on exploite aujourd'hui, elle est très faible. Si vous prenez les trois grandes céréales, blé, riz, maïs, c'est 60% de nos apports caloriques.
94... À eux seuls, ça représente 60% de notre alimentation, finalement.
Exactement. Dans une diversité géante, finalement, on a pris des plantes élites, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Et je pense que ça représente, à l'heure du dérèglement climatique, ça représente aussi un danger de faire confiance à un si petit nombre d'espèces.
Donc c'est toujours la diversité qui est à viser, finalement. Hein, et on se met en danger en...
La richesse et la robustesse, c'est la diversité.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... On imagine qu'on revient au néolithique, mais à l'heure actuelle, et on est en train de domestiquer peut-être de nouvelles plantes ou pas du tout?
Aujourd'hui, on réfléchit, je citais l'exemple du sorgho, hein, qui n'était pas en France. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de sorgho en France.
En France, oui, mais dans le monde, parce qu'on a l'impression à vous entendre qu'en fait, tout s'est fait à partir du néolithique et que depuis, en fait, on ne fait que poursuivre le mouvement, mais qu'il n'y a pas de truc fondateur pour domestiquer d'autres plantes, peut-être, vous voyez?
Effectivement, il y a des plantes qui ont été délaissées complètement par la domestication.
Lesquelles, par exemple?
Mais par exemple, prenez le chêne ou le marronnier. ont les glands. Ils poussent très bien en France, mais ils sont amers ou toxiques. Les marrons, ils sont toxiques. Et donc, on n'a jamais fait de la farine de marron, alors qu'on a des très beaux marronniers en France.
Et de la farine
et qui
de
produisent
châtaigne,
abondamment. Les châtaignes, c'est pas pareil que les marrons. Ouais. Donc, oui, bien sûr, les châtaignes, oui, mais les marronniers, eux, on ne les cultive pas du tout, on ne les exploite pas. Les glands, on les donne aux cochons. Dans certains, je sais qu'en Afrique du Nord, on mange un peu des glands. Mais en France, on ne mange pas de glands parce que c'est trop amer. Et donc, on pourrait aussi imaginer que si on connaît la voie de biosynthèse de ces composés amers, on les modifie et qu'on ait des chaînes nourricières.
Ça s'appelle CRISPR, par exemple, non ?
Ça peut s'appeler CRISPR.
On va en parler tout à l'heure avec vous, François Parcy, vous êtes notre invité. Les clés du champ, c'est chez Humaine Science.
France Inter. La Terre au carré.
14h30, on passe au vert, Camille Cronier.
Et trois lettres aujourd'hui au programme. AMP pour Aire Marine Protégée. Alors, on ne peut pas dire que les termes ne soient pas clairs. Hein. Aire Marine Protégée pour conserver les écosystèmes qui s'y trouvent et au passage, les services qu'ils nous rendent à nous, modestes humains. Voilà, concept qui paraît donc très simple et les Nations Unies ont pour objectif de protéger 30% des océans d'ici 2030. Pour l'instant, on est officiellement à 8%, soit 30 millions de kilomètres carrés avec 18 000 AMP dans le monde. Mais avez-vous bien entendu ? J'ai dit officiellement parce qu'une étude qui paraît cet après-midi même dans la revue Conservation Letters nous dit ça. Un tiers seulement des aires marines protégées sont efficaces dans le monde. Et oui, l'équipe de recherche a scruté toutes les données des 100 plus grandes aires marines qui représentent en fait quasiment toutes les zones de protection, hein, 26,3 millions de kilomètres carrés, soit 7,3% de la surface des océans. Et donc, il n'y en a qu'un tiers qui joue leur rôle en protection stricte, c'est-à-dire zéro extraction, que ce soit pêche, extraction minière ou gazière, ou en protection forte avec de la pêche, mais faite de manière durable et très limitée. Ce qui fait qu'en réalité, même pas 2,5% de la surface totale de l'océan est laissée tranquille. Une goutte d'eau, voilà, ça ne m'empêche pas de faire des jeux de mots un peu tout nuls. Contrairement donc à ce qu'on nous fait croire, les pays sortent tous à un moment ou à un autre la carte AMP, genre pas d'inquiétude, on est sur le coup.
Le problème, c'est que ça donne un sentiment de sécurité et qu'on pense que le travail est accompli. Or, c'est loin d'être le cas.
Joachim Claudet est écologue, directeur de recherche CNRS au CRIOB. Il est l'auteur de l'étude et il a relevé deux catégories que je qualifierais de trompeuses dans les AMP. D'abord, celle avec un niveau de protection largement insuffisant.
Ce sont des aires marines protégées pour lesquelles il n'y a pas de réglementation contraignante. Et donc, il y a exactement le même type d'activité humaine qui peut avoir lieu à l'intérieur que à l'extérieur. Et en particulier, des activités qui sont pour l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, non compatibles avec la conservation marine. Comme par exemple, des activités industrielles et le chalutage.
Voilà, en gros, il y a bien tout qui a été ficelé, hein, avec d'ailleurs de l'argent public, bien sûr, des opérations de communication, de sensibilisation, mais dans les faits, aucune différence. Et c'est valable pour un tiers des aires marines protégées. Et puis, il y a encore pire, et là, ça concerne un quart des AMP étudiées.
Ce sont des aires marines protégées qui sont uniquement déclarées. Elles ne sont pas encore mises en place sur l'eau. Ce qui est par exemple le cas de certaines aires marines protégées du Chili, c'est le cas de certaines aires marines protégées en France, dans le golfe de Gascogne, qui sont déclarées mais qui n'ont pour l'instant aucune gestion effective dans l'aire marine protégée.
Tranquille quoi, on déclare une AMP alors qu'en fait, que dalle. Joachim Claudet a mentionné la France, je lui ai demandé comment on se situait par rapport au résultat global de cette étude, donc un tiers seulement des aires marines efficaces.
La situation française, en fait, c'est pire.
Oups. Pourtant, il disait bien ça, Emmanuel Macron, au Congrès mondial de la nature. J'ai retrouvé le son dans un docu.
Nous avons pris l'engagement au printemps 2019 d'avoir 30% de protection et 10% de protection forte. Ceci à horizon 2027. Nous y serons et nous aurons mis à côté de ça les moyens pour nous assurer que ces 30% sont bien contrôlés et vérifiés.
Bon, alors vous me direz qu'on n'est qu'en 2025, mais le chercheur explique.
En France, les 30% sont déjà atteints. Donc on pourrait penser que c'est bien, sauf que l'écrasante majorité des aires marines protégées en France appartiennent aux catégories qui ne protègent pas grand-chose. Puisque dans l'écrasante majorité des aires marines protégées en France, les activités industrielles ne sont pas réglementées et on peut également chaluter quand ce sont des zones qui sont chalutables.
Chose qui avait d'ailleurs été assumée fièrement par le célèbre secrétaire d'État chargé de la mer et désormais de la biodiversité, j'ai nommé Hervé Berville.
La France, le gouvernement est totalement opposé à la mise en œuvre de l'interdiction des engins de fond dans les aires marines protégées. totalement, clairement et fermement.
Résultat, d'après la dernière évaluation scientifique, 1,6% de protection intégrale pour notre zone maritime, la deuxième au monde, en sachant que la majorité de ces 1,6% concerne
des territoires ultramarins qui ne sont pas habités et qui sont très loin de pressions fortes, comme les terres australes et antarctiques françaises.
Mais pour la Méditerranée, par exemple, alors que la France dit y avoir 60% de ses aires marines protégées, 0,1% sont en fait en protection intégrale ou forte. Et pour l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord, où les eaux françaises sont recouvertes à 40% par des AMP...
Si on regarde la protection intégrale et haute, c'est 0,01%.
Voilà, donc en trois ans, si je résume, la France doit multiplier par 10 ses zones de protection fortes, parce qu'aujourd'hui, ces aires, comme en Europe et dans le monde, ne protègent donc pas grand-chose. L'étude plaide pour que des organismes indépendants, sous l'égide de l'ONU, contrôlent les AMP, pour qu'enfin, on ne se concentre pas sur leur quantité, mais bien sur leur qualité, et donc leur efficacité, n'en déplaise à certains intérêts économiques, défendus aussi par les ambitions court-termistes des politiques.
Camille Cronier s'appelle Camille Passauvert, et vous pouvez écoutez ça sur franceinter.fr.
François Parsi, vous étiez au courant? Vous voyez l'affichage des AMP, je pense.
Oui, je vois bien. Non, j'étais pas au courant du tout. Hein. J'avais aucune idée de ces chiffres-là.
Et sur la protection de la biodiversité marine, qui est essentielle
Mais encore une fois, moi, l'idée, c'est que la biodiversité, c'est la richesse et c'est aussi notre potentiel. Donc, il faut la préserver sur Terre comme dans les mers. Hein. Ça me semble une évidence, même si c'est pas toujours facile. Hein.
Même combat. François Parsi, notre invité cet après-midi.
I slip, I slide, I don't trip, I glide, when I dip, I dive, when I dive deep, in the middle of her ocean, you know where to find me, when it's poetry in motion, she don't ever mind me, if I slip, I slide, I don't trip, I glide, when I dip, I dive, when I dive deep, in the middle of her ocean, you know where to find me, when it's poetry in motion, she don't ever mind me, I'm a Mac, little baby, no, it's a fact, Los Angeles in my lap. Belly still in the trap, I really be spitting bars. Got niggas thinking I rap, I'm hanging out with the stars. Still can't relax, even in these foreign cars. I'm rolling around with the strap, when I hit it hard. Permission to make it clap, I need a round of applause. But I might settle for that, had to break a couple laws. Put my city on the map, You think you beat the pussy up, but you didn't make her come. Even if you made her come, she ain't ever coming back. Play it like you couldn't call it, it's just something that you lack. Jack, got Billie Jean talking bad behind your back. She can roll with me, it's a lucky day. Got a pound of tree and a gang of yay. We had sacks, blending in and spinning racks. Representing is a trend, I don't see no end to that. Where you at? If I slip, I slide, I don't trip. I glide when I dip, I dive when I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me. If I slip, I slide, I don't trip. I glide, when I dip, I dive, when I dive deep. In the middle of a ocean, you know where to find me.
Come on,
when it's poetry in motion,
let me tell you what they
told
me. They told me slowly is the fastest way to get where you wanna be. So I ease to a steady speed, let that bitch breathe. No push, stop, give me keys to that blue Impala, this the good part. When you're living everything you thought about, no single mothers who had to teach their sons how to squabble. No killers who became good fathers who raised their daughters. Look now, AP, I'm 50 for my keys, Las Vegas residency. I brought the two of them me. The good part is father for father. I know it might look hard, but baby, nothing is out of your reach. Grabbed it, and I'll be damned if they gon' take it from me. Passion is what I had before any Grammy.
She can roll with me, it's a lucky day. Got a pound of tree and a gang of yay.
Sacks and some dirty bands, blowing hella bands. I don't smoke, but I'm still high as the price of gas.
If I slip, I slide, I don't trip. I glide when I dip, I dive when I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me. If I slip, I slide, I don't trip. I glide when I dip, I dive when I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me.
Poetry in Motion, c'était Sœur sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. sur France Inter.
François Parcy, chercheur donc avec ce livre Les clés du champ, comment domestiquer les plantes chez Humaine Science. Encore un petit mot sur les mutations dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement ces plantes que nous pouvons manger aujourd'hui, hein, ces plantes à fleurs qui sont comestibles, c'est l'objet de mutations tout au long de la domestication. Et c'est vrai que quand on entend mutation, on entend quelque chose d'assez négatif. On pense à ces mutations qui provoquent des maladies génétiques par exemple. Or ce que vous expliquez, c'est que les mutations sont à l'origine même de la diversification au fond des variétés ?
À l'origine de la diversification et à l'origine de toutes les formes d'espèces qui existent. Parce qu'en fait, s'il y avait eu un jour une espèce qui a acquis la perfection dans son système de duplication de l'ADN, elle aurait peut-être été parfaite à un moment donné, mais au moindre changement de l'environnement, elle aurait disparu. Et les espèces se sont créées précisément parce que ce qui existe ne se reproduit pas exactement à l'identique. Et donc, on peut appeler ça des mutations, on peut appeler ça des variations, c'est la même chose. Mais c'est vraiment l'origine de les formes de vie de la diversité, ce sont les mutations. Et c'est vrai que c'est connoté très négativement, comme vous l'avez dit, avec les maladies génétiques.
Mais vous dites une assurance vie sur le long terme, en fait. Hein.
Sur le long terme, c'est cette diversité qui est l'assurance vie, effectivement. Et donc, si on n'avait pas cette grande diversité des formes du vivant, on ne pourrait pas résister à des changements environnementaux. Et l'agriculture, justement, aujourd'hui, vu ce qui arrive, elle a besoin d'une grande diversité pour être plus robuste. Elle en a absolument besoin.
Isabelle voudrait savoir sur franceinter.fr quelle est la différence entre une plante domestiquée et un OGM, un organisme génétiquement modifié.
Alors, la grande différence, c'est la nature de la modification. Est-ce que c'est une modification qui est apparue toute seule dans la nature, qui est apparue toute seule dans le champ ? Et dans ce cas-là, on ne considère pas que c'est un OGM. C'est artificiel parce que ce sont les humains qui ont fait les croisements en prenant un riz africain, un riz asiatique, qui ne se seraient jamais croisés sinon. Donc il y a un côté artificiel. Par contre, la mutation, elle est apparue toute seule. À partir du moment où ce sont les humains qui, avec par exemple des rayons X, comme ça se fait depuis l'après-guerre, hein, rayons X ou des mutagénèses chimiques, ils modifient eux-mêmes le génome des plantes, alors ce sont des OGM. Mais ceux-là sont des OGM, selon la loi européenne, qui ne sont pas régulés. C'est-à-dire que ce sont des OGM, on en mange depuis 80 ans, les mutations sont introduites par les humains, mais il y a un historique d'usage sans problème. Et ensuite, ce qu'on appelle vraiment OGM, ce sont des plantes transgéniques dans lesquelles on a introduit de l'ADN étranger, et ça c'est régulé en Europe en tout cas, et c'est interdit.
On a modifié génétiquement en fait l'organisme.
On a modifié génétiquement, mais pas seulement en apportant des mutations, en introduisant de l'ADN étranger, et ça ce sont des OGM régulés.
Donc ça c'est les années 80-90, hein,
L'apparition des premiers OGM, effectivement, c'est la fin des années 80.
Et c'est vrai que très vite, cette capacité à transformer donc les plantes par transgénèse, hein, parce que c'est ça le principe des OGM, ça a suscité aussi beaucoup d'espoir, mais aussi, ça a été extrêmement critiqué. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, vous racontez que dans votre laboratoire de recherche, eh bien, vous fabriquiez quotidiennement des OGM pour vos travaux, en fait. Hein.
Ah ouais, moi,
Vous étiez un gros fabricant.
J'étais un gros fabricant. Alors, c'est des plantes, bien sûr, qui restaient en laboratoire, qu'on autoclavait après usage, qui sortaient jamais,
autoclavé,
etc.
Ça veut dire quoi ?
Mais ça veut dire qu'on les passait dans une autoclave, on les faisait chauffer à 180 degrés, on tuait toutes les graines de façon à ce qu'elles ne sortent pas. Et donc il y avait des précautions, c'était des OGM pour de la recherche. Mais moi j'en ai fabriqué dans ma vie, j'en ai fabriqué des dizaines de milliers, hein, vraiment, c'était quelque chose de quotidien.
Très facile à fabriquer.
Très facile à fabriquer, en tout cas pour certaines plantes modèles, pour des plantes cultivées, c'est parfois un peu plus dur. Et ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait, quand sont arrivées les plantes transgéniques, je préfère dire plantes transgéniques pour être très clair, hein, quand c'est arrivé en labo, on s'est dit, ah mais ça va aider l'agriculture, on va changer de la connaissance en nouvelles plantes. Et puis finalement, ça a été, entre guillemets, un peu confisqué par deux grandes variétés de plantes transgéniques. Celles qui produisent un insecticide, les BT, et puis celles qui résistent aux herbicides. Et finalement, il n'y a eu que ça. Il y a eu colza, soja, maïs.
Donc c'est un échec quand même en soi, les plantes transgéniques.
Sur l'aspect biodiversité, c'est certain que c'est un grand échec, parce qu'il y a un très petit nombre, alors que finalement, on aurait pu espérer que la technologie, elle serve à beaucoup plus d'espèces que ça. Ouais. Et finalement, ça a été confisqué par quelques grandes entreprises et simplement pour quelques cultures quelques espèces de très très grandes cultures.
Quel bilan on fait d'ailleurs aujourd'hui ? Parce qu'il y a eu beaucoup de craintes autour des OGM, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, toujours. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique sur l'impact environnemental, par exemple, de cette transgénèse, l'impact sur la santé, donc sur l'environnement et sur la santé ? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ?
Alors ça dépend vraiment de quoi on parle, parce que si on parle des plantes qui résistent aux herbicides, au début on a dit on va utiliser moins d'herbicides, et puis il se trouve que c'est pas vrai, on en utilise plutôt de plus en plus. Oui. Et dans la mesure où
c'est
toujours
les mêmes. Alors même qu'on utilise ces plantes. Hein.
Exactement. Et il y a des échappements, on peut avoir des mauvaises herbes qui deviennent résistantes aux herbicides.
Donc là, on a tout faux, finalement.
Donc là, je dirais... Alors, on a tout faux. Les gens qui font de l'agriculture de conservation des sols et qui ne veulent pas labourer vous disent que c'est mieux de passer un coup d'herbicide pour pas abîmer les vers de terre et le sol.
Oui, mais sauf qu'on en prend de plus en plus aussi, on en utilise de plus en plus. Donc, in fine, c'est quand même très délétère pour la biodiversité, quand même.
c'est délétère pour la biodiversité du champ, mais la biodiversité du champ, c'est les cultures qu'on y sème.
Il n'y a pas de frontière dans le sol, donc l'herbicide, il va ruisseler.
Non, l'herbicide, ah non, quand vous appliquez dans un champ, vous n'allez pas tuer les plantes qui sont à l'extérieur du champ. Ça se verrait très bien sinon. Hein. Non, non, c'est une application locale. En fait, ça s'applique sur les feuilles et ça agit sur les feuilles. Et ensuite, dans le sol, l'herbicide, il est dégradé très rapidement. Donc en fait, c'est un effet qui est local, mais effectivement, dans le champ, c'est un effet qui est total. Quoi.
C'est ce que nous expliquait Marc-André Sellos, qui a suscité beaucoup de réactions d'ailleurs sur le répondeur. Hein.
Sur le fait que ça diffuse... Non, les herbicides, ils ne vont pas tuer à 10 mètres du champ.
Hein, alors pourquoi ils font tellement polémique? Alors, je ne comprends pas.
Ils font polémique parce qu'ils sont utilisés à forte dose, parce qu'il est possible, et ça je ne me prononce pas là-dessus parce que c'est un dossier très complexe, il est possible que pour les gens qui vont, les agriculteurs hein, qui vont épandre ces pesticides, ça a des effets sur leur santé. Je dis il est possible parce que je n'en sais rien. Donc c'est pour ça qu'ils font... Et aussi parce que c'est
On a des preuves que ça a des effets sur la santé, par exemple. Hein. Certains pesticides, on sait très bien qu'il y a des liens, par exemple, avec Parkinson. Hein.
Certains pesticides, oui. Est-ce que les herbicides, il y a un lien très clair sur les consommateurs, par exemple, alors que ça arrive à des très faibles doses? Ça, j'en suis pas sûr. Sur les gens qui les appliquent, eux, ils ont des doses beaucoup plus fortes. Donc je pense que là, les chances, elles sont plus fortes. Ensuite, la deuxième grande classe, c'est les OGM, les plantes transgéniques qui résistent aux insectes. C'est parce qu'elles produisent elles-mêmes la toxine qui vient d'un bacille. Donc en fait, c'est un produit qui est classé bio, hein, qu'on peut utiliser en bio, qui s'appelle le BT. Et ce BT, au lieu d'être épandu, il est produit localement par la plante. Et là, c'est pareil. On peut dire, c'est pas bien de faire produire par une plante un insecticide, mais ça évite de l'épandre. Et l'agriculteur n'a pas besoin d'aller acheter des pesticides à des agrochimistes. Et c'est produit par la semence. Donc là, on peut y voir des mauvais côtés en disant, c'est une catastrophe que la plante produise, mais on peut dire aussi que ça évite d'aller les appliquer de façon beaucoup plus large et donc de toucher des insectes non cibles.
Et la crainte de dissémination incontrôlée d'un OGM, par exemple, avec un autre gène, ça peut être gênant ou pas?
Si, par exemple, en France, vous faites du colza transgénique et qui va se croiser avec des mauvaises herbes de la même famille et que toutes ces mauvaises herbes deviennent résistantes aux herbicides, c'est évidemment une mauvaise idée. Évidemment. Sinon, si vous cultivez du maïs transgénique en France, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de parents. Il y a extrêmement peu de théocintes en France, donc la chance, elle est très faible.
Les inquiétudes sont quand même justifiées incontrôlable, en tout cas de...
Je dirais, on ne peut pas dire les plantes transgéniques sont incontrôlables. Au cas par cas, il faut regarder quelle plante transgénique et quel est le caractère qui a été apporté. Dans certains cas, ça peut poser problème et dans d'autres, ça n'a aucune importance.
Mais c'est quand même vous autoclaviez, comme vous disiez... disiez celle que vous fabriquiez en laboratoire, parce qu'effectivement, s'il y a une graine, quelque chose qui se retrouve dans la nature, là, ça peut venir mettre un petit peu la pagaille, non?
Oh non! En fait, ça, c'était la loi. Ah non! Il y a des lois très strictes dans les laboratoires, de sorte que les organismes génétiquement modifiés, ils n'ont pas le droit de sortir. Donc nous, on applique la loi. Mais j'ai jamais pensé que les Arabidopsis transgéniques que je faisais, qui avaient des graines fluorescentes, par exemple, qu'elles représentaient un danger pour la nature.
Si elles avaient été disséminées dans la nature.
Ah oui, pas du tout. C'était des petites mauvaises herbes. Elles seraient sorties, c'était pas grave. Mais par contre, on appliquait la loi strictement. Et on l'applique toujours, on applique la loi strictement.
Camille, des questions?
Yvette nous écrit, transformer les plantes, pourquoi pas, mais quid de l'adaptation de nos organismes à nous? Est-ce que finalement, les organismes humains s'adaptent à la domestication des plantes?
Mais c'est ce qu'on a vu, enfin les 10 000 dernières années, c'est l'histoire de l'adaptation des humains à leur nourriture. Mmh. Et donc, ça fait longtemps qu'on ne mange plus, comme certains primates, des fruits qu'on cueille dans la nature et qu'on mange beaucoup plus de blé et les allergies au gluten augmentent et des choses comme ça.
Mais est-ce qu'il peut arriver que les transformations soient si rapides qu'en fait, on ne s'adapte pas nous-mêmes et ça nous fait des maladies, non?
Ça, j'ai du mal à y croire parce que c'est le régime alimentaire. On peut changer de régime alimentaire de façon très rapide. Donc, j'ai du mal à croire que ça aille trop vite pour qu'on puisse s'y adapter. Mais bon, là-dessus, je ne suis pas spécialiste. Hein.
Et puis après, les organismes génétiquement modifiés sont arrivés, donc les CRISPR.
Faites la connaissance de la toute nouvelle rouge de Sicile. Cette tomate a été créée au Japon en 2021. C'est le premier aliment issu de l'édition génomique à entrer au supermarché. On a modifié ses gènes pour la rendre plus nutritive. Cette prouesse est l'œuvre de la nouvelle vedette en génétique. Le ciseau moléculaire CRISPR. Après les OGM, CRISPR relance le débat éthique de la manipulation du vivant.
CRISPR, François Parsi, il faut en parler évidemment parce que ça fait beaucoup couler d'encre aussi ces derniers temps. Ça, effectivement, cet exemple de tomate, là, vous le racontez dans le livre, hein, ce sont des chercheurs chinois, c'est ça, qui en 2018 publient, alors je ne sais pas si c'est la même tomate dont il s'agit, mais en tout cas, c'était cette tomate groseille qui, grâce à CRISPR-Cas9, a été créée, en fait. Ouais.
Hein. En fait, elle s'appelle, oui, la tomate groseille, Solanum pimpinellifolium, c'est un joli nom. Et en fait, c'est une tomate qui est toute petite, qui est vraiment plus petite qu'une tomate cerise, et qui poussait à l'origine au Pérou, sur des endroits particulièrement salés. Et on appelle ça une plante halophyte. Elle est capable de pousser sur des endroits salés. Et ce qu'ont fait des chercheurs, il y a à la fois des chercheurs chinois, mais aussi des chercheurs américains, c'est qu'ils l'ont modifié avec la connaissance de qu'est-ce qui fait une grosse tomate, qu'est-ce qui fait un plant de tomate plus court, qu'est-ce qui fait un plant de tomate qui est capable de fleurir et de donner de tomates chez nous. Et en fait, ils ont introduit 5 ou 6 mutations. Ils ont aussi augmenté le taux de vitamines. Et ils ont domestiqué en 4e vitesse cette tomate groseille pour en faire une sorte de plante cultivée.
Et là, il y a combien de mutations, par exemple, par rapport à une domestication beaucoup plus lente? Est-ce qu'il y a un changement dans le nombre de mutations?
Il y a un changement énorme, parce que là, ils ont pris une tomate groseille, ils ont introduit 6 mutations. Et peut-être que dans le processus, ils
donc
en ont mis 6.
C'est rien du tout.
Par rapport à un croisement entre 2 variétés de tomates, on est sur des ordres de grandeur. Mais par exemple, si vous croisez 2 variétés de tomates, vous avez 10 000, 100 000 mutations. Si vous faites de la mutagénèse, vous avez 10 000, 100 000 mutations très facilement.
100 000 mutations sur un temps beaucoup plus long, quand même.
Non. Ah ben non. Quand vous croisez, quand vous prenez 2 variétés qui ont évolué séparément et qui se sont accumulées sur des temps très longs, vous capitalisez sur ce temps long pour immédiatement les mettre ensemble.
Et là, il y a 100 000 mutations.
Et donc là, il y a 100 000 mutations. Je vous donne des ordres de grandeur. Hein. Mmh. Et donc CRISPR, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser la connaissance pour viser des gènes, les gènes de la grosse tomate, par exemple, qu'on connaît. On connaît 2 gènes qui font grandir les fruits de la tomate. Mais on n'a pas tout ce fardeau qu'on a quand on fait des croisements classiques où là, on emmène des dizaines de milliers de mutations non voulues.
Donc vous dites, c'est une sorte de GPS finalement. C'est une technique donc CRISPR qui cherche donc à pouvoir sélectionner exactement les bons, à faire des coupes en tout cas dans les gènes pour aller, vous le dites, hein, tout droit à l'aiguille dans la meule de foin.
Exactement.
En fait, c'est vraiment
ça. On fait soit une mutation ponctuelle à un seul endroit, soit on en fait 2 et ça fait sauter un morceau d'ADN et ça fait un gros trou. Et ça permet par exemple de conférer des résistances à des maladies qui sont normalement difficiles à acquérir par croisement. Et là, on peut les acquérir quasi instantanément.
Et alors, c'est quoi la différence avec un organisme génétiquement modifié, comme on l'a décrit avant, à partir des années 80-90? Est-ce que CRISPR, c'est une façon aussi de créer de nouveaux EGM ou pas? En tout cas, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on entend.
Bien sûr. Alors, c'est pour ça que j'ai pris soin tout à l'heure de parler des EGM non régulés, qui sont ceux qui ont subi une mutagénèse artificielle. D'accord. Ensuite, les plantes transgéniques qui ont de l'ADN étranger. Si je regarde les plantes CRISPR, ce ne sont pas des plantes transgéniques parce qu'elles n'ont pas d'ADN étranger et elles n'ont pas de transgènes. Par contre, elles ont des mutations.
On coupe directement dans
directement,
la plante.
Hein. En nombre bien plus faible que la mutagénèse classique. Donc pour moi, bien sûr, ce sont des OGM, elles ont été modifiées par l'homme. Mais par contre, elles ressemblent beaucoup plus, en même moins affectées, aux OGM non régulés. Donc dans ce livre, je milite en disant... Il faut réfléchir, est-ce que vraiment il faut les réguler sévèrement et on risque de les voir de nouveau accaparés par des grandes sociétés qui ont les moyens de payer la régulation, ou est-ce qu'il faut dire ben finalement, c'est comme des EGM mutagénèse classiques, sauf qu'elles ont 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois moins de mutations, et donc il n'y a pas vraiment de raison de les réguler sévèrement.
Est-ce que, juste par rapport à ça, il n'y a pas un risque de déséquilibrer finalement les écosystèmes?
Mais vous savez, quand on fait de l'agriculture, on n'est pas dans les écosystèmes. Les écosystèmes, ils sont déjà déséquilibrés. Quand vous regardez un champ de blé ou un champ de tournesol, précisément, ce qu'on essaie de faire, c'est un endroit où il n'y a pas toute la biodiversité qui existe dans le bois d'à côté ou dans la prairie d'à côté. Donc moi, je ne pense pas qu'apporter ces plantes nouvelles, ça crée plus de déséquilibre que des choses qu'on aura créées par de la mutagénèse classique.
Sauf que les opposants à ces technologies disent que, dans certains cas, les mutations pourraient être hors cible, là encore, incontrôlables.
Alors, tout à fait. C'est-à-dire que CRISPR parfois se trompe et quand on veut mettre 2 mutations, parfois on en rajoute 2.
Ouais.
Mais encore une fois, il faut comparer ça aux 10 000 ou aux 100 000 mutations qu'on apporte habituellement et qui, depuis 80 ans, ont un historique d'usage sans danger. Donc, et quand vous avez un champ de blé, il y a des millions de mutations dans votre champ de blé. Personne ne les craint, ces mutations, et elles sont tombées au hasard. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les 2 mutations hors cible de CRISPR... Vous savez, quand on fait de la culture in vitro pour faire du bouturage, on apporte 50-100 mutations à chaque fois. Et ça, on le fait depuis toujours pour se débarrasser des
Sauf
virus.
Sauf que c'est des technologies extrêmement récentes. Ça fait 10 ans que ça existe, 10-15 ans, CRISPR. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore le recul non plus pour envisager même des conséquences environnementales ou voir sur la santé des individus. Parce que s'il y a des mutations, pourquoi ces mutations qui peuvent être délétères pour la plante ne le seraient pas pour l'humain qui consomme cette plante?
Mais vous pensez pour la santé?
Oui, bien sûr.
Mais en fait, une mutation, elle peut tout à fait être délétère pour la plante. C'est-à-dire qu'elle peut empêcher la plante de pousser normalement, de faire sa photosynthèse normalement. Et dans ce cas-là, la plante, elle va dépérir et elle va jamais être utilisée comme plante cultivée. Mais après, imaginez qu'une mutation qui est délétère pour la plante est dangereuse pour l'homme, ça n'a pas de base scientifique. On mange tous les jours des tas de mutations et ça va pas créer des problèmes de santé chez nous. Vraiment, ça, il y a pas de base pour ça. Hein. Et pourtant,
peut-être
là,
peut-être pas encore, parce que c'est très récent.
On a 80 ans de recul sur le fait de manger des plantes dans lesquelles on a introduit des centaines de milliers de mutations, voire des millions quand on a fait des croisements. Alors, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre une mutation qui a été produite par la nature, par un rayon X ou par CRISPR?
Bah justement, par rapport à ça, Sylvie nous écrit, des chercheurs et non des moindres affirment que ce n'est pas la technologie qui va nous sauver. Le temps long est celui de notre environnement et l'homme essaye de trouver des solutions toujours plus rapides sur des organismes non programmés pour cette temporalité. On en avait parlé d'ailleurs avec vous.
Mais bien sûr. Non, mais c'est très important de poser cette question parce que moi, je ne prétends pas que CRISPR va nous sauver. Surtout pas. Je pense que les défis de l'agriculture, ils sont immenses et que en aucun cas on peut dire, voilà, il y a qu'à continuer comme avant, on rajoute les plantes CRISPR et ça va nous sauver.
Oui, mais sur la temporalité, est-ce qu'on peut pas juste laisser le temps aux plantes de se transformer, pas en deux ans, dix ans?
Si vous pensez que le dérèglement climatique, il est suffisamment lent pour que la nature s'adapte et nos champs s'adaptent dans le temps qui nous est imparti, alors essayons.
Vous dites c'est pas le cas.
Hein. Moi, je suis convaincu que c'est pas le cas.
Vous dites que nos plantes sont pas du tout adaptées aux changements en cours, en fait.
Nos plantes, elles sont adaptées au climat stable des 50 ou 80 dernières années.
Oui, mais donc quoi? Donc vous dites que c'est la technologie qui va sauver nos plantes?
Non.
Vous êtes technosolutionniste?
Ah non, mais c'est ça que j'essaie de vous dire. Je pense qu'il faut jouer sur tous les outils qu'on a à notre disposition. Je pense qu'il faut changer nos habitudes alimentaires, qu'il faut consommer moins de protéines végétales et d'avoir à moins produire de protéines animales et d'avoir moins besoin de protéines des protéines végétales pour nourrir les animaux. Je pense qu'il faut changer d'espèce, l'exemple du sorgho que j'ai cité qui commence à arriver en Europe. Le sorgho, c'est une plante qui est capable de pousser même si les étés sont secs, alors que le maïs n'y arrive pas.
François Parcy, un autre exemple intéressant, les moustiques par exemple. Ça sera intéressant par exemple de stériliser, de rendre stérile en tout cas les moustiques pour le paludisme, peut-être que CRISPR pourrait le permettre, mais là, imaginons précisément, il y a une réaction en chaîne et qu'on se rend compte plus tard des effets négatifs dans la nature.
Mais
comment on agit?
Bien sûr, mais alors là, ce que vous dites là, vous faites allusion au gene drive qui est capable, effectivement, d'aller stériliser les moustiques. Mais là, on relâche. On n'est pas en train de relâcher des caniches ou des chihuahuas, là. On relâche des loups dans la nature. Les moustiques, ce sont des organismes naturels qui ont toute la capacité à s'installer dans l'écosystème. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les plantes cultivées, elles vont pas envahir la nature. Elles vont rester dans le champ parce que ce sont des plantes qu'on a affaiblies.
Donc là, il y a danger avec les moustiques.
Les moustiques, je me prononce pas. C'est pas du tout mon domaine. Mais moi, j'hésiterais. On a vu ce que ça a donné avec les lapins en Australie.
Oui.
J'hésite.
Non, mais c'est intéressant de mettre des nuances.
Bien sûr,
dans les exemples, parce qu'on ne peut pas prendre tout le package CRISPR imaginant qu'on puisse l'utiliser.
On peut faire de l'eugénisme avec CRISPR aussi, et je ne suis pas militant pour l'eugénisme. Ouais. Moi, je pense que, et même chez les plantes CRISPR, je pense que c'est important de ne pas réguler le processus d'obtention, mais ce qu'on a créé, une plante après une autre plante. Et c'est ça, le sens de la réglementation européenne, c'est de dire, on ne dérégule pas CRISPR. On regarde, est-ce que c'est une nouvelle plante CRISPR résistante à un herbicide? Et là, peut-être qu'on n'en veut pas. Est-ce que c'est une nouvelle plante résistante à une maladie? Et là, on en veut.
Vous avez un peu agacé Guillaume sur franceinter.fr. Comment pouvez-vous laisser François Parcy dire qu'un herbicide n'a pas d'impact à 10 mètres de la parcelle? On en parle des pesticides dans l'eau du robinet, par exemple.
Mais qu'il y ait des traces et qu'il y ait un effet à 10 mètres, c'est des choses différentes. Effectivement, moi je pense que si on met un herbicide sur un champ, on n'est pas en train de tuer le champ d'à côté. Et ça, je pense, quand je dis ça, je ne dis pas de bêtises. Maintenant, si on analyse le champ d'à côté avec des instruments suffisamment sophistiqués, peut-être on va trouver des traces sublétales, c'est-à-dire qui n'ont pas d'effet physiologique, de l'herbicide. C'est bien possible, ça je ne le nie pas.
Enfin, sauf qu'on sait qu'un pesticide peut être déporté aussi, même si on fait de l'épandage sur un champ, il peut aussi déborder et aller dans le champ d'à côté. Enfin, il y a une maîtrise quand même qui est assez relative.
Bien sûr, oui.
Camille, d'autres messages?
Autre question, Nathalie, qui revient sur la toxicité dans les oléagineux. Elle dit notamment du fait de la présence d'un antigerminatif toxique pour notre organisme. Donc j'ai toujours appris qu'il fallait les faire tremper avant de les consommer. Elle demande si c'est une croyance ou une réalité.
Ah, je suis désolé, je ne connais pas du tout ce sujet-là.
Est-ce que vous auriez une réponse sur la privatisation du vivant par les grandes firmes agroalimentaires? Parce qu'on a aussi ce problème-là,
c'est très
avec
important.
Les nouvelles technologies.
C'est un point très important.
Parce que là, on va confisquer aussi une partie du vivant et le privatiser.
Bien sûr. Alors, ce qui est proposé par le Parlement européen, c'est précisément qu'on interdise les brevets sur les variétés CRISPR et qu'on utilise le certificat d'obtention végétale tel que ça se pratique en Europe.
Il va falloir drôlement batailler pour y arriver.
Mais il va falloir batailler, mais l'Europe est forte. Et il n'y a pas de raison qu'on se fasse. Pour l'instant, il n'y a pas de brevet
Aujourd'hui, il n'y a pas de brevet sur les semences en Europe, alors qu'il y en a dans d'autres pays. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à l'imposer sur les plantes CRISPR. Et à mon avis, c'est une condition sine qua non de leur succès.
Ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler et d'être aussi optimiste que vous, François Parsi. En attendant, on peut lire Les Clés du Champ, toute l'histoire de la domestication des plantes. C'est très intéressant, jusqu'aux dernières techniques dont on parlait à l'instant. C'est chez Humaine Science. Merci d'être venu depuis Grenoble.
Merci à vous.
Nous en parler. Bon retour. Demain, un reportage grand format signé Guy Vanctil en Corée du Sud avec là-bas, oui, dans le pays, des militants de tous les âges qui se mobilisent aussi pour la planète. C'est donc demain de 14h à 15h.